Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
L'Esprit Saint, don de Jésus, nous fait entrer dans le dynamisme de la Trinité. L'amour est le signe concret qui manifeste la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Telles sont les paroles du pape ce dimanche lors de l'Angélus, place Saint-Pierre, ce dimanche où l'Église fêtait la Sainte Trinité. Le pape qui a annoncé également qu'il se rendrait en Albanie au mois de septembre, un pays longtemps marqué par l'athéisme d'État. Dans ce magazine, nous entendrons aussi l'évêque de Saint-Étienne en France qui prend la défense d'un de ses prêtres, accusé d'avoir hébergé des réfugiés africains dans une salle paroissiale de l'Église. Et puis l'invité ce dimanche, Bertrand Badi, professeur des universités, spécialiste des relations internationales. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le pape a présidé la prière de l'Angélus en ce dimanche de la Sainte Trinité. Dans la Trinité, a-t-il dit, nous reconnaissons aussi le modèle de l'Église dans laquelle nous sommes appelés à nous aimer comme Jésus nous a aimés, a expliqué François aux très nombreux pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. L'amour est le signe concret qui manifeste la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'amour qui distingue le chrétien, a-t-il souligné. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
C'est une contradiction de penser à des chrétiens qui se haïssent. C'est cela que cherche toujours le diable, nous faire se haïr, car lui sème la zizanie, de la haine. Il ne connaît pas l'amour, qui est Dieu. Nous sommes tous appelés à témoigner de l'amour de Jésus, un Dieu qui n'est pas lointain ni insensible à nos histoires humaines. Dieu nous a tant aimés qu'il s'est fait homme, a rappelé François, cet amour de Jésus qu'il est difficile de comprendre, mais que nous sentons quand nous nous approchons de lui. C'est lui qui nous pardonne toujours, qui nous attend toujours, lui qui nous aime tant. L'Esprit Saint est le don de Jésus ressuscité. Il nous communique la vie divine et nous fait entrer dans le dynamisme de la Trinité, a poursuivi le pape. Un dynamisme d'amour, de communion, de service réciproque, de partage. Une personne qui aime les autres pour la joie même d'aimer. Une famille dans laquelle on s'aime et l'on s'aide les uns les autres. Une paroisse dans laquelle se partagent les biens spirituels et matériels sont toutes des reflets de la Trinité. L'amour vrai est sans limite, mais sait se limiter pour aller à la rencontre de l'autre, pour respecter la liberté de l'autre, a dit encore le pape. Tous les dimanches, nous allons à la messe pour célébrer l'Eucharistie. Nous la célébrons ensemble. L'Eucharistie est comme le buisson ardent dans lequel habite et se transmet humblement la Trinité. C'est pour cela que l'Église a placé la fête du corps du Christ après celle de la Trinité, a conclu le pape, qui a rappelé qu'il se rendrait jeudi prochain à la basilique Saint-Jean de Latran pour célébrer cette fête du Corpus Domini, invitant les fidèles qui le peuvent à s'y rendre ou à l'accompagner par la prière.
Et la situation en Irak de ces derniers jours est suivie de très près par le Saint-Père, le pape François qui a fait part de sa vive préoccupation. À l'issue de la prière de l'Angélus, le souverain pontife a invité les fidèles à s'unir à sa prière pour la chère nation irakienne, surtout pour les victimes et pour tous ceux qui souffrent des conséquences des violences croissantes, et en particulier pour toutes ces personnes, dont tant de chrétiens qui ont dû quitter leur maison. Le pape qui a enfin souhaité pour toute la population irakienne la sécurité et la paix et un futur de réconciliation et de justice dans lequel tous les Irakiens, quelle que soit leur appartenance religieuse, puissent contribuer ensemble à leur patrie en faisant un modèle de cohabitation. Le pape qui, à l'issue de la prière de l'Angélus, a annoncé qu'il se rendrait en Albanie. Ce sera le 21 septembre prochain. Répondant ainsi à l'invitation des évêques et des autorités civiles albanaises, le pape François, selon ses mots, désire confirmer dans la foi l'Église en Albanie et témoigner son encouragement et son amour à un pays qui a souffert longuement des conséquences des idéologies du passé. L'Albanie a en effet souffert pendant de longues années du joug communiste. En 1967, le dictateur Enver Hoxha avait ainsi proclamé son pays le premier État athée du monde. Patrie de Mère Teresa, l'Albanie fut occupée par l'Italie fasciste, puis l'armée hitlérienne au cours de la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir un régime communiste jusqu'en 1991. C'est un pays aux périphéries du continent européen, précisait le porte-parole du Saint-Siège. On y compte quelque 15% de catholiques, autant de fidèles orthodoxes et plus de 60% de musulmans. Ce déplacement en Albanie sera le quatrième hors d'Italie du pontificat de François, après le Brésil, la Terre Sainte et la Corée du Sud, mais le premier sur le continent européen. Jean-Paul II s'était lui aussi rendu à Tirana en 1993. À noter que le pays compte 2 archidiocèses et 3 diocèses, et entretient des relations diplomatiques avec le Saint-Siège depuis 1991. Il pourrait payer près de 12 000 euros d'amende. C'est ce qu'a requis mercredi dernier la justice française contre Gérard Riffard, 70 ans, prêtre à la retraite à Saint-Étienne, en France. La justice lui reproche d'héberger depuis des années des demandeurs d'asile africains dans une salle paroissiale de l'église. Une salle qui, selon la municipalité, ne respecte pas toutes les normes de sécurité pour y loger des personnes. Le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre prochain. Cette affaire a choqué et le père Gérard Riffard a reçu beaucoup de témoignages de soutien. L'un des premiers a été celui de Mgr Dominique Lebrun, l'évêque de Saint-Étienne. Il a été très surpris d'apprendre que le père Riffard était poursuivi par la justice. On l'écoute.
À Saint-Étienne, il est bien connu. Son dossier est très bien connu par la justice, comme l'a montré le procès. Et tout le monde sait qu'il fait du bien. Alors qu'il y a eu un arrêté de fermeture pour des questions de sécurité, pour qu'on se mette à l'abri, mais il y a un moment où le chrétien, le prêtre, l'Église doit prendre des risques, non pas inconsidérés, mais au contraire, mettre à l'abri des personnes qui seraient sinon à la rue.
Quelles difficultés sont mises en lumière avec cette affaire ?
On est dans une société de riches qui érige la non-responsabilité en principe ou qui vit sur des normes. Et comme le père Gérard Riffard l'a dit très justement, finit par oublier l'humain. Tout le monde serait content s'il respectait des normes. C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui sont sur le territoire français et qui, s'ils ne les accueillaient pas, seraient à la rue ? Ou seraient logés dans des conditions qui, humainement, pourraient être pires.
Et justement, quelle est la situation donc, des demandeurs d'asile à Saint-Étienne aujourd'hui ?
Gérard Riffard a dit très justement que l'État ne faisait pas complètement ce à quoi il s'est engagé. L'État fait déjà beaucoup pour 1500 demandeurs d'asile. Et puis, il y a un moment, l'État s'arrête parce que son budget s'arrête. Mais nous ne pouvons pas, l'Église, nous arrêter avec une question de budget. Donc nous allons un peu plus loin et en quelque sorte nous aidons l'État. Moi j'aurais attendu d'une certaine manière de la part des autorités publiques plutôt un soutien en reconnaissant que, et je crois que c'est bien normal, c'est pas l'État à tout gérer. La solidarité doit se vivre aussi au niveau de l'association, au niveau de famille, au niveau interpersonnel et c'est ce que nous essayons de dire et au niveau d'Église parce que n'oublions pas que la très grande majorité, sinon tous, ce sont des frères et sœurs chrétiens.
Et quel est votre sentiment par rapport donc au propos du juge durant l'audience qui a dit que cet accueil c'était faire un appel d'air et qu'il a dit donc qu'il s'est adressé au père Riffard en disant « Vous coopérez d'une certaine façon à l'immigration clandestine ».
Par rapport au juge et au tribunal, je tiendrai d'abord à dire que c'est assez remarquable ce qui s'est passé. Il y a eu un véritable échange, un véritable débat. Quant au reproche de l'appel d'air, le juge a dit que c'est la préfecture qui faisait ce reproche. Là aussi, le père Gérard Riffard, je crois, a bien répondu en disant que c'était sans doute de l'ordre un peu du fantasme. Je comprends qu'on soit inquiet quand on est responsable d'un département, du point de vue de l'État, de voir le nombre de demandeurs d'asile. Mais précisément, il y en a 1500, 1600. Les 50 qui sont hébergés par le père Riffard ne changent absolument rien au flux migratoire. Au fond d'un pays africain, quand on décide de prendre tous les risques pour venir en Occident, ce n'est pas le dortoir improvisé dans la paroisse Sainte-Claire à Montréal qui leur fait prendre la décision.
Et plus globalement, donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur le rôle de l'Église aujourd'hui ?
Ce que je crois, c'est que l'Église doit être beaucoup prophétique et rappeler sans cesse, proposer sans cesse à la société d'avoir une âme qui regarde plus loin, qui regarde l'homme et qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Ce qui n'est pas facile lorsqu'elle devient juridique, lorsqu'elle devient normée, et lorsqu'elle simplement elle cherche à gérer la liberté des hommes sans lui proposer un vrai projet sur ce qu'est la dignité de l'homme, sur ce qu'est la dignité de la famille, sur ce que sont les rapports sociaux. C'est à l'Église, à ce moment-là, de servir d'aiguillon, pas seulement en parole, mais aussi en acte.
C'était Mgr Dominique Lebrun, l'évêque de Saint-Étienne, interrogé par Audrey Radondi. Pour la deuxième partie de ce magazine, l'invité de ce dimanche nous lance un cri pour que nous ouvrions les frontières de nos pays pour le bien de tous. Cet homme, c'est Bertrand Badie, politologue spécialiste des relations internationales. Il est aussi professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de relations internationales. Au micro de Sœur Catherine Aubin, Bertrand Badie revient sur son dernier ouvrage intitulé « Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales ».
Bertrand Badi, vous êtes entre autres politologue et spécialiste des relations internationales. Est-ce qu'on peut dire, Bertrand Badi, que votre fil rouge de tout votre parcours est d'une part les relations internationales, certes, mais aussi ce qui ne va pas dans les relations internationales?
Absolument. J'ai toujours été passionné par une idée qui était de montrer que les relations internationales étaient d'abord humaines et qu'elles s'adressaient d'abord à l'homme. Alors que toute la peinture qu'on nous offre des relations internationales, en tout cas depuis qu'elles ont été inventées dans leur forme moderne, c'est-à-dire 1648, la fameuse paix de Westphalie, consiste à présenter les relations internationales comme le produit de monstres froids, de stratèges, d'états dépouillés de sensibilité ou en tous les cas de rapport à l'humanité. Et puis peu à peu l'intrus, c'est-à-dire L'homme est entré dans les relations internationales. Il y est entré à travers aussi les sentiments d'indignation qu'il pouvait ressentir face à un certain nombre de catastrophes internationales. Et donc on s'est aperçu que les relations internationales, elles n'étaient marquées d'aucune exceptionnalité. C'était des faits sociaux comme d'autres.
Et comment en êtes-vous arrivé là? Comment, pourquoi les relations internationales? Est-ce que c'est votre dernier livre qui est un peu la source, le commencement de votre parcours, le temps des humiliés?
Oui, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le fond même de la violence n'est pas à trouver dans la stratégie des princes ou des chefs d'État, aussi cruels fussent-ils, mais dans une sorte d'insatisfaction et de frustration que les sociétés ressentent non seulement à l'égard de leurs princes, mais à l'égard du monde. Et ceci est vrai depuis des décennies et des décennies, peut-être des siècles, mais particulièrement vrai en cette période de mondialisation. Et donc, j'ai considéré que l'humiliation était aujourd'hui le facteur belligène par excellence. Et que, à force d'humilier, on crée de la frustration, de la tension, de la violence, et on entre dans un cycle de l'intolérance qui ne s'arrête plus et qui aboutit à nos guerres d'aujourd'hui. Je suis quand même frappé de voir comment nos dirigeants traitent les pays du Sud, comment ils oublient des choses aussi essentielles que toutes les 3 heures, la faim dans le monde fait 2800 morts, comment chaque minute, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme dans l'indifférence générale. Et bien pour moi, les relations internationales, voyez-vous, c'est cela. Avant d'être la Corée du Nord face à la Corée du Sud, ce sont ces questions sociales internationales qui me paraissent être au centre de tout, et surtout à l'origine de tous les dangers. C'est une découverte que j'ai pu faire au fil de mes travaux de relations internationales. J'avais toujours l'impression qu'on restait à la surface des choses. Je me suis dit, creusons pour comprendre la vraie nature des relations internationales et donc découvrons le fondement social de tout ça. C'est donc bien une insatisfaction académique, intellectuelle, scientifique, mais c'est aussi une insatisfaction personnel. J'ai, par mon expérience humaine, par mon histoire familiale, pu vivre ou observer dans le parcours de ma famille ce qu'était l'humiliation, ou en tout cas une toute petite partie de ce qu'est l'humiliation, et cela a convergé avec ce constat plus scientifique, empirique, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc effectivement, Le temps des humiliés est un ouvrage qui compte beaucoup pour moi.
Vous parlez dans votre livre « Le temps des humiliés », de la maîtrise de l'amour-propre en relations internationales. Ou pour le dire de façon plus banale, comment gérer cet égo de tous ces diplomates qui n'arrivent pas finalement à passer outre et à chercher le bien commun. C'est de cela dont vous parlez ?
Absolument, je dirais que c'est presque le malheur fondateur. C'est-à-dire que les relations internationales modernes sont fondées explicitement, ce n'est pas caché, sur l'idée d'intérêt national. Le jeu classique des relations internationales, c'est la compétition d'intérêts nationaux, et donc le propre de chaque État, à travers sa politique étrangère, c'est de défendre et de promouvoir son intérêt national. Donc, la science des relations internationales, c'est la science de l'ego. Et le comportement normal, c'est de protéger son ego. Alors, protéger son ego dans une situation où les concurrents, c'est-à-dire les États en compétition, sont égaux en niveau de développement économique, social, culturel, ça peut encore aller. Ça peut encore aller, c'est une formule assez cynique, parce que ça n'allait pas sans guerre. Mais ces guerres étaient comme contenues, circonscrites, et surtout l'un respectait l'autre. Quand on se faisait la guerre en Europe, on faisait toujours la guerre à son cousin, c'est-à-dire à son semblable. Tout ceci, donc, avait encore un sens violent, un sens inacceptable, mais un sens. Aujourd'hui, les relations internationales mettent en compétition non seulement des États, mais toute une série d'acteurs extraordinairement différents en niveau de développement. Comparez le PIB des États-Unis et celui de la Sierra Leone et vous comprendrez tout de suite. En culture, les cultures ne sont pas du tout les mêmes. Et si le jeu d'ego continue, eh bien la culture de l'autre, elle sera immanquablement jugée comme la culture de l'inférieur. Et vous-même, vous apparaîtrez dans votre ego comme celui qui, meilleur que les autres, doit, en quelque sorte, transformer le monde à sa propre image.
Bertrand Badi, j'ai quand même envie de vous poser comme question, comment pouvez-vous, vous, mettre en parallèle ce que vous dénoncez avec aussi les messages du pape François? Le pape François qui essaye de dire combien il faut sortir de soi, combien il faut partager, combien il faut être proche de l'autre et de l'autre différent. Il est allé à Lampedusa il y a quelques mois. J'imagine que tout ça ne vous laisse pas indifférent dans ce que vous écrivez.
Au contraire, j'ai été extrêmement frappé et séduit par les messages du pape François. Il y a tout un courant très fort dans l'Église qui prend conscience de cette modernité, de cet après-interétatisme. Et c'est normal, parce que tout à l'heure je parlais de la nécessité de ramener les relations internationales vers l'homme. Finalement, il y a deux philosophies qui peuvent ramener les relations internationales vers l'homme. C'est soit une philosophie héritée du socialisme et de l'internationalisme d'autrefois, soit une autre héritée du christianisme. Et le pape François, et déjà avant lui l'Église, sur des questions comme l'immigration, ont pris des positions extraordinairement modernes. Et ça, je crois que c'est extraordinairement important, extrêmement encourageant. L'immigration, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de l'homme. Le monde est à celle et celui qui bougera. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de globalité, nous sommes dans un monde de mobilité, nous sommes dans un monde de visibilité. C'est-à-dire, personne ne pourra empêcher le pauvre homme au Nigeria de voir l'explosion démographique et l'extraordinaire difficulté d'accéder à un emploi chez soi, et les possibilités qui sont offertes dans les pays où la population active ne progresse plus et où le PIB est incomparable et incomparablement supérieur à celui du Nigeria. Quel fantastique égoïsme de développer des politiques anti-migration. Égoïsme et inefficacité, mais on ferait beaucoup mieux de se demander comment organiser ce grand phénomène moderne ou postmoderne, qui est le déplacement des populations, pour le bien de tous. On nous crée la peur parce que, justement, l'égoïsme auquel on faisait référence tout à l'heure conduit directement à la peur. Lorsque l'ego est menacé, eh bien, on a peur et on fait peur. Mais sachons entrer dans un monde où, justement, la migration sera gouvernée, aidée, facilitée, favorisée. Si on arrive à faire des migrants heureux, on fera des migrants mieux intégrés. Et si on fait des migrants mieux intégrés, eh bien, la migration ne sera plus un problème. Il y a des moments où la charité est utile. Si nous voulons que nous, et surtout nos enfants, connaissent la paix demain, eh bien, il faut créer les conditions de concorde avec l'autre. C'est tout le sens de ma vie et de mes publications que de montrer comment un monde plus intégré est finalement un monde plus utile et plus sûr.
Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.